Les Nuits de France Culture, deuxième nuit, Charles Dickens. Nuit commencée en compagnie de Jean-Pierre Holl, auteur d'une biographie consacrée à Charles Dickens, publiée en folio, et aussi d'un roman intitulé Monsieur Dick ou le dixième livre, Gallimard, puis dans la collection La Petite Vermillon en table ronde. Nuit passée souvent en compagnie de Monsieur Pickwick, bien sûr, mais aussi en suivant une adaptation par Pierre Gripari du Grillon du Foyer, nouvelle de Dickens, l'un des cinq contes de Noël, puis une conférence de Raymond Lasvernias, si Dickens avait été heureux, et à l'instant, ce reportage à Londres, dans la fabrique de l'histoire, sur les traces de Dickens. Nous avons aussi reçu Florence Bigot autour de sa thèse « Charles Dickens et la BBC au XXIe siècle, réinvention, réécriture, nouveau public ». Un entretien illustré par de multiples extraits d'adaptations télévisuelles récentes de l'œuvre de Charles Dickens. Bonsoir Delphine Cadvalader.
Bonsoir Philippe Garbi.
Et bonsoir Estelle Muraille.
Bonsoir monsieur.
Alors, sous la direction de Sarah Thornton, qui était notre invitée lors de la première nuit à Charles Dickens, vous avez soutenu l'une et l'autre, pas en même temps, votre thèse. Estelle Muraille, c'était... Alors, donnez-nous l'intitulé exact, si vous vous en souvenez.
Exact.
Je l'ai, moi, hein, mais...
Ouais, allez-y.
Alors, peut-être dans le désordre. Hein. Espace et temps, flâne dans Londres et Paris au 19e siècle.
Exactement.
C'est bien ça. Delphine Cadvalader, c'était l'imaginaire de la pathologie, discours médical et écrit romanesque chez Wilkie Collins et Charles Dickens.
Tout à fait.
C'est ça?
C'est ça, exact, c'est exact.
Bon. Alors, de votre thèse, Estelle Muraille, on ne parlera pas beaucoup, parce que ce serait un peu redondant avec l'émission qui vient de passer, ce reportage de la fabrique de l'histoire. On sait que Dickens marchait, mais on marche pour repérer, pour sentir la ville, et il l'a fait, et abondamment. Mais alors, rassurez-vous, après votre thèse, j'imagine que vous avez continué à vous intéresser à Dickens, ou alors pas du tout, c'était un rejet épouvantable.
Non, non, il me plaît toujours, et j'ai plus travaillé en fait sur la littérature victorienne en général, en incluant Dickens bien sûr, puisqu'on ne peut pas penser la littérature victorienne sans Dickens, et l'opium, du 19e à nos jours. Donc c'est mon nouveau champ de recherche, et je vais essayer de vous en parler un petit peu.
Mais ça, il arrive quand même que des étudiants comme ça, des thésards, finalement après... ne veulent plus du tout pas entendre parler de leur sujet.
Tout à fait, j'ai fait un rejet du flâneur pendant 5 ans, hein. Je dois vous, vous le dire, c'est un... voilà.
C'est revenu comme
c'est
ça.
C'est revenu, voilà. C'est revenu.
Mais alors, je pense qu'entre vous deux, parce qu'on va parler donc opium, maladie, malade, médecin, les vrais médecins, les faux médecins, enfin ceux qui sont dans les romans, ceux qui ne sont pas dans les romans aussi. Donc vous allez théoriquement, on va trouver un terrain d'échange. Ce sera un terrain d'échange et une époque aussi. L'époque, c'est quoi? La grande puanteur, c'est le,
oui,
le les lieux, c'est les docks, c'est le long de la Tamise.
Voilà, c'est ce qu'on appelait the great stink hein, à l'époque. Donc la grande puanteur, effectivement, ça convient finalement assez bien maintenant. C'était un siècle de contagion, de contamination, de grandes épidémies, de petites véroles, de choléra. C'était un endroit pas tout à fait sécure pour vivre, et pourtant Dickens se délectait de ces figures de malades, de contagions, de miasmes, et il les recherchait d'ailleurs.
Vous-même, alors, vous êtes intéressé à Dickens, non pas malade, mais Dickens et les maladies, enfin pourquoi?
Ouh, c'est
Delphine Cadvalader.
Une question psychanalytique. Je me suis intéressée en fait aux figures effectivement des malades dans la littérature victorienne, mais sous la forme du discours, enfin sous l'angle du discours. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est ce que Dickens a pu apporter, ou même ce qu'on lui a dérobé en termes de structure narrative pour asseoir un discours qui est devenu un discours propagandiste en fait de la médecine clinique de l'époque.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que Dickens avait une façon d'écrire et de s'imposer dans l'imaginaire des victoriens, mmh, en parlant de difformités, de pathologies, de maladies, que les médecins ont repris à leur compte, à la fois dans la structure de leurs discours, c'est-à-dire de leurs écrits, mais aussi dans leur tableau clinique qu'ils ont largement pris chez Dickens, parfois sans le dire, parfois en le disant, pour s'asseoir, ou en tout cas pour asseoir une nouvelle pratique qui était difficile à accepter pour les victoriens, qui était la pratique clinique. Donc pour asseoir cet imaginaire, enfin cette pratique dans l'imaginaire des victoriens.
C'est que le corps existait soudain?
Ah non, le corps existait déjà, mais...
Mais par morceaux, par...
Non, justement, il existait comme un tout, comme un circuit.
Chez les médecins?
Non, chez les victoriens en règle générale, chez Dickens en particulier. Et précisément, les médecins ont essayé de, ou d'ailleurs ont réussi, à imposer un autre imaginaire du corps, là effectivement, en morceaux.
Mais alors, donc, est-ce que vous voulez dire par là que Charles Dickens a inventé la médecine moderne anglaise?
Je vais dire qu'il y a contribué, oui.
Vraiment?
Ah oui.
Alors, donnez des exemples, dans quel roman?
Bon, par exemple, il est très connu pour avoir... découvert, on va dire, par son œil, qu'on appelait un œil clinique. On en lui a rendu hommage en 1870 à sa mort. Les médecins pensaient qu'il aurait dû être clinicien et non romancier. Bon, je me porte en faux, mais il a décrit des pathologies qui ont été découvertes bien plus tard, voire la dernière en 1996. Il a décrit parfaitement la démence à corps de Lévy. Dans Scrooge, à la démence à corps de Lévy, et le tableau clinique n'a été simplement confirmé qu'en 1996.
Il a ça, c'est dans un des contes de Noël.
Oui, tout à fait. Scrooge. Il a découvert le syndrome de Broca 25 ans avant Broca dans Les Grandes Espérances.
Alors dites-moi, en quoi c'est.
Il a donc Mrs. Jo, qui est la sœur, la grande sœur de Pip, le héros, le personnage principal, est attaquée par Orlick. Avec un marteau. Et donc, Dickens explique très bien que, après ce coup, elle est victime de vision double, d'ataraxie, de déportation du corps vers la gauche. Elle ne peut plus du tout écrire avec des lettres, elle écrit avec des images, et personne ne comprend. Donc, en fait, elle dessine un marteau, et tout le monde prend ça pour un T. Et c'est absolument typique de Broca. Le syndrome de Pickwick.
Alors, entendu. Quel est-il?
Le syndrome du Pickwick, c'est une narcolepsie sur obésité morbide. Et c'est un tableau qui a été parfaitement décrit par Dickens et qui ne sera repris qu'à la fin, à toute fin du 19e siècle. D'ailleurs, on lui a rendu hommage puisqu'on utilise le syndrome pickwickien ou le syndrome de Pickwick.
Vous êtes médecin, Delphine Cadvalader?
Je travaille avec des médecins, donc... Là, moi, je me suis effectivement un petit peu... J'ai flâné à l'extérieur des cercles de Dickens. Je me suis un petit peu éloignée. Je l'utilise encore, mais pour fabriquer une forme d'enseignement auprès de médecins qui s'appelle la médecine narrative. Et donc, je leur présente des textes de littérature du 19e, du 20e, mais surtout du 19e, puisque je suis amoureuse de la littérature victorienne. Et donc, je les aide à comprendre que la parole d'un... patient est un texte à comprendre.
Mais pourquoi alors ces syndromes ne portent-ils pas le nom de Dickens ?
Alors, c'est assez vaste comme question. En fait, il ne porte pas son nom parce que, d'abord, Dickens n'est pas clinicien, il n'est pas médecin. Qu'en règle générale...
Stendhal ne l'était pas, et on parle du syndrome de Stendhal.
Oui, mais il a certainement aussi découvert, ou en tout cas décrit d'autres choses, et tout ne porte pas le syndrome de Stendhal. Et c'est aussi parce que le médecin doit absolument mettre sa patte. C'était aussi l'importance de l'enseignement de la médecine à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il fallait trouver un syndrome. Hein. Les trois grands médecins qui ont fondé la médecine clinique en Angleterre sont... Bright, Addison et Hodgkin, on connaît ces noms-là puisqu'on connaît la maladie de Bright, la maladie d'Addison et le syndrome de Hodgkin. Donc il était extrêmement important de marquer l'histoire par le mot, en tout cas par son propre nom. Donc on lui a quand même donné Pickwick, mais ça n'est pas Dickens.
Mais est-ce que Charles Dickens avait repéré chez de vrais patients ces maladies, ces pathologies ces...
Oui, sans aucun doute.
Oui.
Oui, je pense à une anecdote comme ça où il a imaginé une. Alors, il adorait les difformités corporelles et il a mis en scène beaucoup de nains, en général, pour montrer la difformité de la société, de la façon dont les vices tordent les corps. Il a effectivement été attaqué par sa voisine Jane Seymour parce qu'il avait mis en scène dans David Copperfield une naine vicieuse qui s'appelait Miss Maucha et elle s'est reconnue, sa voisine. Voilà. Donc oui, en règle générale, il imitait et je sais qu'aussi il limitait ce qu'il voyait devant le miroir. Donc il reproduisait ça avant de l'écrire.
Alors Estelle Muraille, vous n'êtes pas médecin, vous êtes professeur.
Mm-hmm. Voilà, alors, l'Institut catholique de Paris.
Institut catholique de Paris, l'intitulé c'est quoi là? C'est
maître de conférence en littérature victorienne.
Donc vous n'êtes pas médecin, vous êtes peut-être opiomane, non? Puisque vous vous intéressez beaucoup.
Non plus, j'ai passé du temps à San Francisco, mon mari vient de là-bas, mais non. Pas opiomane.
Alors comment vous êtes-vous intéressé à l'opium? Cela dit, dès qu'on lit Dickens, on peut s'y intéresser, mais... Mm-hmm.
Alors, ma thèse parlait de Flannery, et donc j'ai donc beaucoup travaillé sur les Flannery de Quincy, bien sûr, qui a écrit les mémoires d'un mangeur d'opium. Donc c'est comme ça a été ma porte d'entrée, en fait, vers l'opium. Et pour faire un pont avec ce que Delphine a dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la puissance de l'imaginaire dickensien, en fait. Et à quel point il est venu effacer la réalité historique. Donc, c'est ce à quoi je me suis intéressée quand j'ai commencé à penser l'opium. Et donc, pour peut-être planter le décor, je vais revenir sur cette scène d'ouverture d'Edwin Drood, sans la décrire.
Oui, on en a parlé pas mal en début de nuit avec Jean Pirol. Mais allons-y, voilà. Reprenons.
Mais, comme vous savez, on y voit divers corps. Donc, on est dans une fumerie d'opium dans les bas-fonds de Londres. On y voit divers corps frappé d'une stupeur mortelle, étendu sur des couches. Alors on a un chinois, un lascar, une femme et un homme. Les traits sont hideusement déformés. Voilà, l'homme tremble de la tête aux pieds. Et puis on a bien sûr cette vision de splendeur orientale qui se superpose à la ville de Londres. Donc on a cette sorte de palimpseste est-ouest, voilà, qui vient ouvrir le roman. Puis bien sûr, tous les accessoires de la prise d'opium sont là. Donc on a la pipe, on a la bouteille d'encre d'ailleurs, les volutes de fumée.
La pénombre.
Exactement. Et puis, on a une scène empreinte de mystère et parcourue d'une violence sourde. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a le poignard imaginaire qui est là. Et puis, on a le chant religieux qui vient clore la scène, qui parle d'un méchant homme. Et donc, dans cette scène, on a la présence du mal associée à la fumée de l'opium. Donc, cette association entre mal, mystère et fumerie d'opium teintée d'orientalisme, ce qu'on appelle Dark England, hein, les bas-fonds de l'Angleterre, les bas-fonds londoniens, commence à voir le jour dans la littérature populaire et la presse populaire dans les années 1860. Donc, Edwin Drood paraît en 1870. Voilà. Donc, Dickens n'invente pas complètement ce cliché, hein, puisque, et ses préjugés d'ailleurs envers la population chinoise de Londres, puisque cette littérature populaire commence déjà à en parler, à complètement exagérer la taille de la population chinoise à Londres, commence à associer les fumeries d'opium chinoises au mystère, à la nuit, aux jeux d'argent, aux actes impies.
C'est quoi les actes impies ?
Nous allons y venir, mais ces articles sensationnalistes qui se vendent très bien en fait voient le jour dans les années 1860, mais Dickens en commande un, c'est-à-dire qu'un des premiers articles qui décrit ces fumeries d'opium complètement plus ou moins imaginaires. Hein,
certains, il n'y en a pas tant que ça en plus.
Il y en a très peu. Certains universitaires avancent qu'il n'y en aurait jamais eu que deux à Londres. Voilà. Mais il commande un de ses articles sensationnalistes intitulé Lazarus Lotus Eating, donc Lazare mangeur d'opium, et voilà. Donc il le commande pour son magazine All the Year Round, donc son magazine littéraire créé quelques années auparavant. Et il aurait demandé à son auteur, Joseph Charles Parkinson, de l'écrire. Et certains universitaires avancent qu'il l'aurait aussi édité, corrigé. Donc on a une sorte de brouillon, en fait, de la scène d'ouverture d'Edwin Drood. Et alors là, dans cet article, le narrateur pratique ce qu'on appelait le slumming à l'époque. C'est-à-dire que c'était très à la mode pour les journalistes d'aller se promener dans les quartiers pauvres de Londres et de rapporter et de grossir le trait et de rapporter tous ces faits sensationnalistes au lecteur. Et donc, le narrateur dans
Pas interdit, Estelle Murray, les fumeries d'opium à cette époque-là.
Non. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, donc, on prend de l'opium au cours du 19e siècle, et même avant d'ailleurs, en tant que médicament. Donc, comme on sait, de Quincy en abuse un petit peu, il prend du laudanum, il a les effets secondaires qu'on sait, mais voilà, on en donne d'ailleurs aux bébés, hein, pour les faire dormir dans le biberon, sous forme de sirop, enfin tout ça est très très normal. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 1868, donc juste avant l'apparition de Edwin Drood, on a le Poison and Pharmacy Act, qui est une loi qui, après sa mise en vigueur, interdit l'opium sous forme à la chinoise, comme il dit, à la chinoise, donc fumée. Et donc, cette loi considère que l'opium mangé ou bu, c'est un médicament, mais l'opium fumé, c'est une drogue. Donc, on a cette sorte d'association entre fumerie d'opium qu'on trouve dans les quartiers chinois, même s'il y en a très peu, et drogue. Et donc, qui dit drogue dit quelque chose d'illicite, qui dit illicite dit mystère, dit tout ça.
Actes impies.
Exactement.
Alors dites-nous les actes impies.
Alors voilà.
Chez Dickens, bien sûr.
Chez Dickens.
Par voyeurisme.
Dans l'article dont je parlais, en fait, le narrateur donc suit un pauvre homme chinois vêtu de haillons nommé Lazare, jusque dans une fumerie d'opium et dans la plus sordide de Londres, hein, bien sûr. On a tous les clichés qu'on imagine. On est vraiment dans le misérable taudis de la vieille Yahi. et qui rassemble des êtres de tous les quartiers de Londres et des quatre coins du globe. Donc on a des marins, des intendants, des boutiquiers, des charlatans, des mendiants, des parias, des voleurs, qui se retrouvent tous dans le même taudis, étendus avec les corps enchevêtrés. Voilà, donc on a tous les clichés qu'on retrouve ensuite.
Et peut-être le futur assassin d'Edwin Drood, si tant est qu'il ait été assassiné.
Bien sûr.
Ce que l'on ignore. Qu'en pensez-vous, Delphine Cadvalader, de ce Londres que vous n'avez pas fréquenté, vous ?
Qui le dit ? c'est le Londres de Dickens. C'est le Londres qui apparaît partout dans ses romans, qui apparaît d'ailleurs partout aussi, enfin, en filigrane dans les romans de Wilkie Collins, qui était aussi Opiumman.
Mais qui n'est pas du tout un Londres inventé.
Ah non, pas du tout. Et le slumming, justement, donc effectivement, ces excursions, il les faisait avec ses amis, dont Wilkie Collins. Alors il y a des épisodes assez drôles où les amis aristocrates de Dickens descendaient, se rendaient compte de la puanteur, vomissaient par terre, et donc il s'amusait énormément en fait à décrire ça dans ses lettres. Ça l'amusait beaucoup. Oui, c'est ce Londres-là, en fait, moi, qui me passionne, et c'est ce Londres-là qui passionnait Dickens, parce que c'est de là aussi que viennent toutes ces difformités, toutes ces maladies, et aussi toutes les réformes médicales. Dickens a été quelqu'un il était tellement conscient, en fait, de la pauvreté et des conséquences, en fait, de la pauvreté sur la santé publique, qu'il s'est engagé auprès d'hommes comme Chadwick, par exemple, pour réformer la santé publique.
Oui, il n'est pas là pour montrer le côté exotique, très, très cocasse du Londres pauvre. Heureusement, c'est pas ça.
Ah non, c'est pas du voyeurisme de sa part. C'est vraiment, il y a un esprit de réforme.
Est-ce que ça marche, par exemple, sur les médecins ou je ne sais pas les édiles de Londres, ayant lu Dickens, est-ce qu'ils pensent qu'il faut justement réformer la médecine, est-ce qu'il faut la rendre accessible à tous les Londoniens ou...
Oui et non. Oui, puisque dans cet esprit de réforme, précisément, et c'est ça qui est intéressant, par exemple, on a le l'incipit de Dombey and Son, donc Dombey et fils, qui montre un imaginaire et des métaphores très chères à Dickens, qui montre par exemple Londres comme un grand corps malade pulsatile. Il utilisait énormément ces métaphores-là pour montrer l'harmonie, finalement, entre les corps individuels au niveau microcosmique et le corps de Londres au niveau macrocosmique. Et en fait, on se rend compte que dès 1855, dans les rapports médicaux sur la santé publique, le style de Dickens est totalement imité. Dans des articles de The Times qui vont servir à asseoir ces réformes-là, donc effectivement de santé publique, d'aide aux pauvres, de maisons médicales, on a le style de Dickens absolument partout. Et il s'engage lui-même d'ailleurs à lever des fonds, à faire des lectures publiques en ce sens. Donc oui, ça a fonctionné. Maintenant, il faut se remettre aussi dans l'idée d'un Londres victorien bourgeois qui découvre avec horreur dans les années 40 avec la révolution industrielle et les trains qui partent. Il y a une gravure de Gustave Doré qui montre ça, donc Railways Over London, où en fait on voit vraiment ce Londres éventré et les bourgeois qui découvrent avec horreur tous les bas-fonds de Londres depuis leur train et qui ont cette conscience incroyable, terrible et qui vient comme un choc et qui les pousse à se protéger. On met des voiles, des gants, on n'ose plus toucher les murs à cette époque-là. On met des masques partout, des voiles en tout cas, effectivement, pour ne pas toucher l'infâme.
Mais on met aussi les mains sur les yeux pour ne pas voir peut-être.
Oui, ou en tout cas, on se met dans sa maison et on essaye de ne pas penser au pauvre qui est à côté.
Est-ce que Dickens a un discours scientifique ou non ?
Non, il a un discours grandiloquent, il a un discours dramatique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est toucher les cœurs. C'est pas toucher les esprits. Ça ne l'intéresse pas de faire comprendre des choses scientifiques. D'ailleurs, il a un rapport à la science qui est très très ambigu.
Le discours de Dickens inquiète ?
Non, il inquiète pas les scientifiques. Il inquiète les
lecteurs.
Oui, il inquiète les lecteurs, ça c'est certain. Mais il est aussi, il aide à aimer. Il aide à aimer Londres et effectivement que ses lecteurs se rendent compte de leur responsabilité vis-à-vis du système.
Et c'est le Murray. Alors Dickens lui-même, il fumait de l'opium.
Alors, pas à ma connaissance, mais on ne sait pas. Hein. Vous savez, c'était un homme mystérieux qui avait de multiples vies, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. Par contre...
Sur Wilkie Collins, vous avez des choses à nous dire, peut-être ? Non, rien du tout. Hein.
Non, d'accord. J'ai pas encore
mais qui a travaillé sur Wilkie Collins et Charles Dickens? C'est vous, Delphine Knibbe-Lader?
Ça va être ça.
Ben quand même, vous avez lu Estelle Muraille. Je me tourne vers vous pour vous taquiner. Vous avez lu du Wilkie Collins. Vous avez peut-être lu le roman signé Wilkie Collins et Charles Dickens. Ça s'appelle L'Abîme en français. Je sais pas si
No Thoroughfare en anglais, effectivement.
On peut le lire dans Collection du Masque. Et je crois qu'il y a des. Il est question beaucoup de vin, parce que c'est un propriétaire qui fait venir du vin de France, etc. Mais il n'est pas question d'opium.
Il n'est pas question d'opium. D'ailleurs, Wilkie Collins parle très très peu d'opium. Il en consomme énormément. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose qu'il tait. Ça pointe. Par contre, ça vient dans The Moonstone, hein, la pierre de lune, où effectivement il imagine ce médecin, lui-même opiomane, qui parvient à guérir un patient grâce à des doses de tabac et d'opium très précises.
C'est-à-dire que Sherlock Holmes, lui, que fera-t-il plus tard? Il va aussi droguer,
oui,
lui.
Bien sûr.
Oui. Estelle Muraille.
Alors. On a plusieurs discours qui autour de l'opium au 19e siècle, c'est intéressant. Donc ça commence avec De Quincey où là bien sûr, il prend du laudanum mais on pense tout de suite à l'artiste qui a des visions magnifiques, etc. On pense aussi à Coleridge avant lui qui écrit le magnifique poème Kubla Khan après avoir pris du laudanum, etc. Et ce discours persiste, c'est-à-dire qu'effectivement l'opium comme source d'imagination pour les artistes ou pour des gens comme Sherlock Holmes, c'est quelque chose qui perdure. Mais on a ce double discours avec aussi opium et depravity, dépravation, c'est ça?
Déchéance,
mm-hmm. Merci. Qui vraiment commence à se sédimenter dans les années 60-70 et que l'écriture de Dickens, en fait, cristallise et renforce. Et le problème de ce discours, si on veut, c'est que cette scène d'opium qui devient une sorte de, qui est incroyablement efficace, c'est-à-dire que on pense fumerie d'opium, tout de suite on pense imaginaire gothique pour le Londres victorien. Donc il suffit d'un seul, même un seul plan au cinéma, puisque ce discours passe au cinéma, je suis sûre que vous en avez parlé. Hein. Et Dickens inspire d'ailleurs beaucoup le cinéma muet hein, d'Hollywood. Tout de suite, on a cette fumerie d'opium qui évoque toute une atmosphère. Mais le problème avec cette scène, en fait, qui était reproduite des centaines de fois au cinéma, dans les foires hein, du début du siècle, on les voit dans des poupées de cire, on voit des petits automates, on a ça partout. Après, dans les BD, dans chaque blockbuster hollywoodien se passant dans le Londres victorien, on a une fumerie d'opium et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement efficace. C'est un petit peu comme le château hanté. Hein. On voit ça et paf, on se situe tout de suite dans une atmosphère. Mais le problème, c'est que on pense opium, on pense fumerie d'opium. Et ça efface toute la réalité historique des guerres de l'opium, en fait.
Hein, donc oui, vous avez travaillé sur les mouvements néocoloniaux ou coloniaux, sur le commerce.
Sur le commerce de l'opium, en fait. Et alors, on commence à en reparler de ces guerres de l'opium, surtout depuis, encore une fois, là, grâce à la littérature, surtout depuis la sortie des romans d'Amitav Ghosh, un écrivain indien qui a écrit The Ibis Trilogy, donc la trilogie de l'Ibis, qui parle des guerres de l'opium et qui est une formidable saga de donc 1500 pages hein, qui raconte cette histoire. Et donc on s'y réintéresse. Et grâce à ce best-seller, les universitaires dickensiens se sont réintéressés aux guerres de l'opium et ont essayé d'en trouver des traces chez Dickens. Alors on en trouve très peu en fait. Et alors on parle toujours de displacement, de traces seulement, de traces infimes. Par exemple, alors on va dire que le discours autour des guerres de l'opium qui fait rage dans la presse à l'époque, hein, on va en trouver des traces infimes chez Dickens. Donc par exemple, je pense à Little Dorrit, donc le roman La Petite Dorrit, que Dickens écrit en 1855 en fait, hein, et qui est donc rédigé au moment des secondes guerres de l'opium. On a une sorte de silence mystérieux et coupable autour de la fortune des Clannams, hein, surtout qu'on sait que Arthur Clannam a passé 2 années en Chine dans les années 20, qui correspond totalement à la période d'expansion du commerce de l'opium en Chine par l'Empire britannique. Et donc voilà, c'est ce genre de traces qu'on trouve chez Dickens, mais lui n'en parle pas. Hein.
Fortune mal acquise.
Voilà, fortune mal acquise. Quand il y a un mystère autour d'une fortune, c'est souvent autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement, un des articles fondateurs de la pensée postcoloniale, c'est Edward Said, qui parle de Jane Austen et qui parle de la fortune de la famille de Mansfield Park, dont ont-elles l'origine. Et en fait, on en parle un tout petit peu, mais tout est fondé sur l'esclavage. Et donc, en fait, on a ce même courant de pensée chez Dickens. On applique ça à Little Dorrit, où on tue l'origine de la fortune, mais en fait...
Comment naissent les grandes fortunes ?
Comment naissent les
grandes fortunes ? Toujours
mal. Voilà. Donc on a un imaginaire complètement victorien, des intérieurs victoriens. On reste sur l'Angleterre, on reste en Angleterre, dans le parlor, où on boit du thé. Mais en fait, tout ça est fondé, en fait, sur une logistique et une expansion de l'Empire qui exploite le reste du monde. Mais c'est tu, en fait. Donc on en trouve des traces infimes.
Même Dickens n'en parle pas.
Non. Alors, on parle aussi de scènes qui pourraient se passer à Canton, par exemple, ou sur... voilà, mais qu'on retrouve sur la Tamise. Mais en fait, c'est des scènes qui sont inspirées par des descriptions qui se passent dans l'Empire. Mais il ne va jamais en parler directement de ces guerres de l'opium, en fait. Donc, on a cet imaginaire formidable, Dickensien, qui prend tellement de place dans l'imaginaire populaire qu'on en vient à oublier la réalité historique, en fait. Donc, c'est assez intéressant de relire ou de lire des écrivains indiens comme Amitav Ghosh qui... remettent un petit peu nos idées en place, en fait, par rapport à la réalité de ce qu'était l'Empire victorien, en fait.
Delphine Cadvalader, réagissez-vous ?
Cela m'évoque, en fait, la façon dont Dickens, finalement, occulte aussi la réalité médicale de son époque. Il a une opinion extrêmement forte et claire sur la médecine clinique. Il ne l'aime pas. Il n'aime pas l'idée qu'on puisse démembrer des corps aussi bien dans la réalité, hein, c'est la réalité des body snatchers qui venaient la nuit déterrer les corps pour les vendre.
Mais encore au 19e siècle ?
Ah oui, bien sûr, pour les vendre au... Oui, oui, il y a un de ces personnages dans Bleak House qui passe ses soirées à ça, enfin ses nuits à ça.
D'accord,
tout à fait. C'est surtout par rapport à ce qu'il imagine en fait qu'il comprend comme un démembrement intellectuel en fait du corps, c'est-à-dire un espèce d'écarissage conceptuel du corps qu'il ne supporte pas dans la médecine clinique. Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les médecins qu'il met en scène, ce sont des médecins qui appartiennent en fait à 40-50 ans avant. Les nouveaux spécialistes que pourtant il côtoie, qu'il connaît, avec qui il échange, dont il a les livres dans sa bibliothèque, il l'était, il y en a deux dans toute son œuvre. C'est quand même, quand on voit les pages et les pages qu'il a écrites, c'est assez fou. Donc, et ils sont totalement caricaturés. Donc effectivement, son imaginaire a tendance à couvrir l'histoire. Et comme on lit Dickens et comme on lit beaucoup Dickens, c'est qu'il est encore très présent dans l'imaginaire britannique, en tout cas actuel, on a une image déformée en fait, de ce qu'était la maladie et de ce qu'était la médecine, parce que c'est Dickens qui l'a dit.
Mais aussi parce que ces romans ne sont pas tous contemporains de leur publication. Donc si ça se passe 50 ans en arrière, c'est normal qu'ils parlent, qu'ils décrivent des médecins... d'anciens...
Oui, mais c'est le cas par exemple dans Comte de Deville, mais c'est pas forcément le cas pour d'autres romans comme Bleak House par exemple ou Great Expectations, Les Grandes Espérances. C'est contemporain, c'est maintenant.
Et alors pourquoi donc parler de médecins qui ont, enfin de type de médecins traditionnalistes en tout cas qui pratiquaient une médecine 50 ans plus tôt et non pas celle de la médecine contemporaine?
Alors la façon dont moi je l'ai interprété, j'y ai beaucoup travaillé, c'est le refus catégorique qu'il a de penser le corps comme on le pense de façon mécaniciste au 19e siècle. Tout devient machine au 19e siècle et il est très révolté contre finalement une révolution industrielle qui va abîmer et les corps et les esprits et surtout le lien social. Et cette médecine, qui est cette médecine clinique, qui voit le jour dans les années 30, à Guy's Hospital, à Londres, est une médecine qui abîme le lien et qui abîme l'identité. On devient sa maladie, on devient le nom de sa maladie, on n'a plus d'identité propre. Et donc en fait, il voit ça comme un espèce de démembrement de l'identité. Il y a dans ses romans des jambes folles, des mains qui bougent toutes seules, des fourchettes qui tiennent des rideaux, des objets déplacés qui ne servent à rien et qui, en règle générale aussi, sont des organes, hein, des yeux qui bougent ou qui ne bougent pas, un désordre complet qui, pour lui, en fait, est le signe, ou en tout cas, que le sens éclate si précisément on ne considère le corps que comme l'addition de ses parties. Pour lui, le corps, et effectivement ça correspond à un imaginaire médical du siècle antérieur, le corps est un tout, est un organisme, et il le montre ne serait-ce que quand il fait la description de Londres, et là dans absolument tous ses romans.
Estelle Muraille ? Si on avait demandé à Charles Dickens au 19e siècle, enfin de son vivant bien entendu, qui est fou ? Qu'est-ce que la folie ? Qu'aurait-il pu répondre ? Parce que le malade, avec sa pathologie, avec ses signes, tout ça, etc., bon, c'est facile, mais je sais pas, il y a quand même l'homme hanté dans les contes, voilà, il y a tellement de personnages qui sont dérangés, soit par l'avarice, soit par un passé qui leur échappe, enfin, qu'ils ne retrouveront jamais, mais qu'on ne devine même pas.
Delphine.
Ah, voilà, on se tourne vers Delphine Cadvalader.
Les cas cliniques que Dickens, dans l'immense majorité de son œuvre, les cas sont des cas, sont des pathologies organiques. Il s'intéresse en fait assez peu aux vraies maladies mentales.
L'homme hanté, il n'a pas une maladie organique.
Mais je ne suis pas persuadée qu'il soit malade. Dickens en fait s'intéresse aux vices du passé, s'intéresse aussi beaucoup à l'état second qu'est le rêve. Et donc il y a toujours ce travail sur la frontière entre réel et imaginaire. Scrooge, hein, pareil, dans le conte de Noël, peut être considéré comme fou, hanté, voilà, qui
possédé,
finalement.
Enfin, passionné.
Oui.
Une mauvaise passion.
Mais en réalité, il est traversé, organiquement parlant, par les humeurs de la ville et en fait par les blocages du système. C'est vraiment une métaphore très chère aux yeux de Dickens et c'est ce qui rend malade et le corps et l'esprit. Et notamment, il a lu et même écrit beaucoup de choses, des articles, hein, notamment, sur la façon dont le corps fabrique et des émotions et des pensées et donc voir des maladies mentales, en tout cas des troubles, mais pour lui c'est organique.
Si vous avez un roman moins connu des Français de Charles Dickens à recommander l'une et l'autre, alors on a cité au cours de ces deux nuits, j'imagine, à peu près tous les dix grands romans, peut-être une nouvelle ou Delphine Cadvalader.
Little Dorrit, hein, la petite Dorrit, c'est quand même très intéressant sur, pareil aussi, sur cet imaginaire de la croissance, de quelque chose de l'ordre tumoral en fait, qui...
Et vous, Estelle Muraille ?
Moi, un texte très court que je trouve magnifique, c'est Night Walking, qui est une toute petite nouvelle sur la flânerie nocturne, où là encore, Dickens explore Londres et que je trouve vraiment magnifique.
Et on trouve ça en français ?
Oui,
je pense.
Oui, c'est... Oui.
Tout le monde lit l'anglais, bien entendu.
Bien sûr.
Bon, Cipodane, Mettez Comté, le magasin d'antiquité, l'humour du monde, l'allumeur de Réverbère, puis Les Grandes Espérances dans Plaisir de la lecture, puis un petit peu de Pickwick, et on se retrouve Delphine Cadvalader et Estelle Muraille en toute fin de nuit.